Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.
Mercredi 14 janvier 2026, il est 6h avant minuit. Merci de nous rejoindre sur Syllabe pour parler un peu info. Et info qui ne vient pas du Gorafi, non, 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 je vous jure. Elle a été révélée aujourd'hui par le Canard Enchaîné. Un député Rassemblement National s'insurge contre le versement d'argent public au Transmusical de Rennes. Une association, je cite, connue pour l'organisation de festivals de musique d'artistes transgenres. Oui, c'est Mathias Renaud, élu RN de la Somme, qui a fait cette sortie et qui a visiblement super bien travaillé son dossier en croisade contre certaines associations qu'il qualifie de structures idéologiques et militantes. Il a déposé une série d'amendements au projet de loi de finances pour 2026 visant à réduire certaines subventions du secteur associatif. Les rencontres transmusicales figurent en exemple dans l'un de ces amendements. Alors, je pense qu'il y a confusion des genres, c'est le cas de le dire. Notre festival rennais préféré, désolé cher invité, ne milite pas pour la cause LGBT+. Son nom est inspiré d'un titre de disque, en fait, de free jazz, sorti en 1978, qui s'appelle Transmusic Concert à Paris. L'amendement en question a en tout cas été rejeté par la Commission des Finances, puis discrètement retiré avant les discussions en séance dans l'hémicycle. Ça aurait été dommage de se couvrir de ridicule en public. Tout de suite, le flash d'Estelle.
Le spectre d'une confrontation avec les États-Unis plane en Iran. L'ONG Iran Human Rights annonce 734 manifestants et manifestantes morts à Téhéran. Au même moment, Donald Trump menace d'intervenir militairement si les tribunaux iraniens condamnent à mort les prisonniers du pays. Selon Washington, la première exécution pourrait avoir lieu dès aujourd'hui, celle d'Erfan Soltani, 26 ans. Les autorités iraniennes ont assuré cet après-midi pouvoir riposter à toute attaque. Pendant ce temps, du côté des soutiens du régime des Mollahs, on se rassemble massivement. À Téhéran, des milliers de personnes défilent dans les rues pour honorer les membres des forces de sécurité décédés, appelés martyrs. La peine capitale n'a pas été prononcée depuis 1997 en Corée du Sud. Cela pourrait bientôt changer en défaveur d'un ex-président, rien que ça. Le parquet de Séoul a requis cette nuit la peine de mort contre lui pour sa tentative ratée d'instaurer la loi martiale le 3 décembre 2024. Selon les procureurs, Yoon Suk-yeol aurait voulu s'accrocher au pouvoir en prenant le contrôle des pouvoirs judiciaires et législatifs. Le verdict est attendu le 19 février. Dans le box des accusés, l'ancien ministre de la Défense et le chef du renseignement militaire sont également jugés, avec des peines allant de 15 ans à la prison à vie. Les agriculteurs ont quitté la ville Lumière mais restent mobilisés dans la ville Rose. Deux points noirs subsistent ce mercredi. Blagnac et Roc-sur-Garonne, où des opérations de blocage se poursuivent. Le président de la Chambre d'agriculture du GER, Lionel Candelon, a été interpellé et placé en garde à vue. Des agriculteurs de la coordination rurale se sont rassemblés devant la gendarmerie pour le soutenir. Au total, la préfecture d'Occitanie recense 8 interpellations et 6 gardes à vue. À Paris, les engins agricoles ont quitté l'Assemblée nationale ce matin après avoir obtenu des engagements sur la trésorerie. Hier soir, Sébastien Lecornu a annoncé une loi d'urgence agricole qui sera présentée au Conseil des ministres en mars. Elle portera sur l'eau, la prédation et les moyens de production et sera examinée par le Parlement avant l'été. Naître ou ne pas naître, telle est la question qui agite les démographes en France. Hier, l'Institut de sondage INSEE a annoncé qu'en 2025, la France a comptabilisé plus de décès que de naissances. Une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malgré une augmentation du taux de mariage, pourquoi les couples français ne veulent plus faire d'enfants? Comment la migration soutient-elle la croissance démographique en France? L'AFCAN nous explique.
Le solde naturel en France est négatif pour la première fois
Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'a constaté l'INSEE dans son bilan démographique de 2025. L'année dernière, 645 000 bébés sont nés dans le pays, contre 651 000 décès. Résultat, le solde naturel de 2025 s'établit à moins 6 000 personnes. Par rapport à 2024, c'est donc 2,1% de naissances en moins et 1,5% de décès en plus. Avec une moyenne de 1,56 enfants par femme, en 2025, le niveau de fécondité n'a jamais été aussi bas en France depuis 1944.
Donc il y a moins de personnes en France en 2026, c'est ça ?
Et non, car malgré une baisse notable de la natalité, la population augmente encore. Au 1er janvier 2026, la population en France est estimée à 69,1 millions d'habitants, soit 0,25% de plus qu'un an auparavant, nous affirme l'INSEE. Comment ? Eh bien, autre première depuis 1944, la France doit sa croissance démographique uniquement grâce au solde migratoire en 2025. Autrement dit, ce plus 0,25% de la population en 2026, il est dû à plus de 176 000 entrées sur le territoire en 2025. Pourtant, si l'immigration devient largement motrice dans la croissance de la population française, elle connaît également une baisse. Contrairement à ce que beaucoup de théories faussement appuyées cherchent à nous faire croire, le solde migratoire était de plus de 271 000 en 2022, avant de se stabiliser vers plus 176 000 les années suivantes.
Et est-ce qu'il y a une raison particulière à cette baisse de la natalité en France ?
En réalité, il est difficile de distinguer les choix personnels, les normes sociales ou encore les contraintes physiques et économiques parmi les chiffres. Amorcée en 2011, cette diminution des naissances n'a eu de cesse de questionner. En juillet 2025, l'Institut National d'Études Démographiques publie un article explicitement intitulé « Les Françaises Français veulent moins d'enfants ». Entre sondage et analyse, les auteurs sont formels. Le nombre idéal d'enfants chez les Françaises est passé de 2,7 en 1998 à 2,3 en 2024. Dans cette étude, on y souligne que ce sont les hommes et femmes de moins de 30 ans qui ont le plus baissé leurs intentions de fécondité, moins 0,6 enfants en 20 ans. Autre inversement de tendance, comparé à 2005, les 18-29 ans préfèrent un enfant ou moins plutôt que 3 ou plus. On trouvait alors dans cet article de l'INED une première réponse. Pour ses auteurs, Milan Boucher-Valla et Laurent Toulmont, cette baisse est liée à la manière dont les individus appréhendent l'avenir, notamment la crise environnementale, mais ce n'est sans doute qu'une partie de l'explication. À cela s'ajoutent également des témoignages et facteurs quotidiens, le prix de l'éducation, des crèches, des logements. Ce sont sur les femmes qu'ont longtemps reposé les statistiques démographiques. Aujourd'hui, elles défendent plutôt le fait de vouloir s'épanouir professionnellement plus que de supporter la charge mentale d'être mère de nombreux enfants. Selon plusieurs spécialistes interrogés par Le Monde dans un article que le journal a publié hier, cette baisse du taux de natalité est multifactorielle. Elle s'accompagne d'une généralisation d'un discours traditionnel de culpabilisation envers les femmes.
Donc, à l'anxiété climatique, c'est ajouter une émancipation féminine ?
C'est en tout cas ce qu'affirment des historiennes et psychanalystes dans les colonnes du Monde, comme Christine Bard, Sylvie Chaperon et Geneviève Delezy de Parseval. Pour elles, mettre au monde des enfants a toujours été vu comme un devoir, une obligation pour servir la patrie. Plus qu'un réel désir de maternité, il s'agissait d'une peur d'être pointée et jugée. La seconde moitié du XXe siècle marque alors un tournant. Premier planning familiaux, diffusion des méthodes de contraception, légalisation de l'avortement, enfin le choix a réellement pu s'installer dans la vie de famille des femmes. Un gala d'émancipation ouvert avec la sortie du deuxième sexe de Simone de Beauvoir en 1949. L'ouvrage porte les prémices du fait d'assumer sa non-envie d'être mère et la parole se libère d'année en année à ce sujet.
Merci Lafken. Selon Eurostat, en 2024, seuls 5 pays européens affichaient encore un solde naturel positif, l'Irlande, Chypre, Malte, le Luxembourg et la Suède. Aujourd'hui, la France compte presque autant de plus de 65 ans que de moins de 20 ans. Si le réarmement démographique défendu par Emmanuel Macron en 2024 ne survit que par l'immigration, l'Union nationale des associations familiales a demandé au gouvernement de réinvestir dans la politique familiale. Deuxième jour du procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national et déjà plusieurs rebondissements. Le procureur a estimé que la chef du Rassemblement national avait été injustement condamnée en première instance pour complicité. Cela pourrait pousser le Parlement européen à reverser 1,4 million d'euros au RN si la Cour suit ce raisonnement. Hier, Marine Le Pen a adouci sa ligne de défense. Pour la première fois, elle a reconnu qu'une faute involontaire pouvait avoir été commise, mais rejette toute responsabilité sur le Parlement européen. Elle accuse de ne pas l'avoir alertée sur les irrégularités. Il ne s'est pas évadé, il n'a pas bénéficié d'une décision de clémence, il a tout simplement été oublié. Le parquet général de Rennes n'a pas demandé la prolongation de la détention provisoire de Guillaume F., condamné en décembre 2024 pour des viols commis sur son fils. Son procès en appel est prévu le 21 janvier 2026, mais il vient d'être libéré avec seulement un contrôle judiciaire. Cet homme est pourtant un multirécidiviste profondément lié au réseau pédocriminel du Dark Web. Un ancien hôtel de 2 étoiles figurant dans l'inventaire du patrimoine culturel de Rennes va reprendre vie. Fermé depuis 2018 après une liquidation judiciaire, l'hôtel Richemont sera rénové et fusionnera avec l'hôtel Garden pour créer un nouveau complexe hôtelier à 2 pas de la gare. Le projet, à l'arrêt depuis plusieurs années, redémarre début février avec l'arrivée de la grue, pour une fin de chantier prévue en juillet 2027.
Merci beaucoup Estelle, à mercredi prochain, j'ai laissé tomber ma gourde, à mercredi prochain pour un nouveau flash.
À mercredi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Ça va Romane ?
Ah, ça va super, et toi ?
À toi. Ouais, moi ça va. À toi pour l'interview.
Du 15 janvier au 17 février, le festival Autre Mesure revient à Rennes pour une 11e édition. Pendant 3 semaines, le festival explore les musiques contemporaines sous toutes ses formes, écrites, improvisées, minimalistes ou expérimentales, en dialogue avec les arts visuels et le cinéma. Et pour en parler ce soir, on reçoit Jean-Sébastien Nicolet, coprogrammateur. Il est habillé d'un gilet en laine marron. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous sentez à l'approche de cette 11e édition ?
Alors, c'est vrai qu'on commence demain, donc ça commence un petit peu à chauffer. Et beaucoup de promos, beaucoup de productions aussi, beaucoup de détails encore à fignoler. Après, on commence un peu soft demain, parce que c'est juste une représentation des élèves du conservatoire en ouverture d'un programme de cinéma. Donc, on n'est pas encore trop investi dans les problématiques techniques et d'accueil, mais ça va bientôt arriver.
Est-ce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas le festival, vous pouvez l'expliquer ?
Alors, le festival Autre Mesure, il est dédié à ce qu'on appelle les musiques contemporaines. Traditionnellement, ce sont les musiques qui sont d'après-guerre. Alors aujourd'hui, ça a des musiques qui ont 80 ans, hein, donc on n'est clairement pas totalement dans ce qu'on appelle le mot contemporain dans son acception première. Donc aujourd'hui, musique contemporaine, c'est toutes les musiques de répertoire, celles qui sont écrites, mais aussi celles du répertoire actuel. Et on n'est pas forcément dans une approche, on va dire, très élitiste de la musique contemporaine. Il y a plein d'entrées différentes qui vont de la musique néo-traditionnelle en passant par les musiques improvisées, en passant par le jazz aussi sous certaines exceptions et aussi les musiques électroniques.
Vous écrivez dans l'édito que le festival reste fidèle à son intention première de faire tomber les appréhensions à l'égard de la musique contemporaine. Comment cette volonté se traduit-elle concrètement dans la programmation cette année ?
Alors, il y a beaucoup d'entrées différentes, c'est-à-dire qu'on essaie de donner les clés de lecture aux auditeurs et auditrices et des personnes qui vont fréquenter le festival, aussi bien en proposant des entrées comme le cinéma, par exemple, on en parlait, le rapport à l'image est toujours intéressant pour aborder les choses. On a une partie de notre programmation aussi qui est offerte, donc qui est gratuite dans des musées souvent, et qui viennent répondre aussi à des expositions ou alors à des œuvres qui sont exposées dans les lieux. Donc c'est un travail en fait de collaboration avec les espaces de diffusion. Je pense à la Criée par exemple, où on va accueillir dès samedi la Tchalaparta, un instrument traditionnel basque, et qui vient répondre à une exposition d'Hélène Bertin qui s'appelle Danse Tremblenage. Donc on a construit ça avec l'artiste et avec le lieu d'exposition. Et puis autrement, pour tous les autres concerts, on essaie d'avoir des tarifications le plus bas possible. L'idée, c'est de pas aborder un frein avec l'économie des spectacles.
Cette 11e édition marque aussi l'entrée du festival dans une nouvelle décennie. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça confirme dans votre manière de penser Autre Mesure ?
Je ne sais pas si on a vraiment peur de vieillir. Pour l'instant, en tout cas, le festival y grossit. Ça, ce qui est évident, c'est qu'on est quand même un festival bénévole. Donc, on y passe toujours une journée par semaine à peu près avec mon collègue Melaine. Et qu'on se rend compte qu'on a énormément de sollicitations extérieures, de plus en plus d'artistes qui veulent être présentés, de plus en plus de lieux qui veulent s'associer à l'événement. L'idée pour nous, c'est peut-être de toujours un peu se remettre en question sur ces choses qui fonctionnent un peu trop bien pour essayer de donner un peu de risque aussi et se changer un peu, nous, les idées dans notre organisation et d'apporter toujours un peu de la nouveauté à chaque fois.
Est-ce qu'il y a un mot d'ordre, un thème pour cette édition 2026 ?
Alors, il y a des thèmes qui se définissent un peu après le travail de programmation. Par exemple, cette année, il y en a un autour du fait qu'on va présenter pas mal d'œuvres qui sont sans partition ou une autre partition. Par exemple, cette année, nous avons une création autour de Stimmung, une œuvre assez importante de Karlheinz Stockhausen, compositeur allemand, lui-même d'après-guerre, qui avait décidé de composer dans les années 68 une œuvre vocale, donc sur du chant diphonique, donc c'est un chant qui présente une particularité technique assez impressionnante, on le connaît dans le chant mongol notamment, et il avait dessiné une partition avec des dessins. Et donc c'est la première fois, ou une des premières fois en tout cas, on a vu des partitions qui sortaient vraiment de ce qu'on connaît nous du solfège habituel.
Et sur 3 semaines, on retrouve combien de rendez-vous musicaux ? Combien
on a 15 événements musicaux, si on intègre effectivement la séance de cinéma qu'on propose, et puis la conférence également qu'on donnera sur justement cette histoire d'œuvre ouverte, c'est-à-dire l'idée de pouvoir composer de la musique sans partition classique.
Vous parlez cinéma, le festival s'ouvre demain au cinéma Arvor autour du film There Will Be Blood. Okay. Et quel est le lien entre la musique contemporaine et le cinéma ?
C'est un peu ce qu'on essaie de raconter, et en lien avec le festival Travelling, qui est un peu un collaborateur maintenant régulier pour nous, parce qu'on va faire aussi la clôture avec eux. Cette ouverture, en fait, on l'a pensée sur There Will Be Blood, parce que d'abord, c'est un des films préférés de Mélène Dalibert, mon collègue de programmation, et aussi parce que la bande-son est vraiment exemplaire, en fait, de ce que c'est que la musique contemporaine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle se retrouve aussi dans les bandes-sons des films. Donc, on retrouve, par exemple, un thème très connu de Arvo Pärt, un compositeur estonien, qui a un morceau qui s'appelle Fratress, et puis le reste de la bande-son était composé par Johnny Greenwood. Johnny Greenwood, il est connu pour être le guitariste de Radiohead, par exemple.
Dans la programmation, on retrouve Midori Takada le jeudi 22 janvier. Je propose qu'on s'écoute un petit morceau. Que propose-t-elle au public et pourquoi était-il important pour vous de l'inviter cette année ?
Alors Midori Takada, déjà, là, c'est un extrait qu'on a entendu du Renard Bleu, je crois, une pièce qu'elle a faite avec la Funda. Midori Takada, c'est une dame déjà assez âgée, elle a 73 ans, elle vit au Japon, et elle a fait partie d'un mouvement qu'on appelle le quatrième monde, donc c'est-à-dire qu'elle a exploré son instrument, les percussions, le marimba notamment, en lui intégrant des sonorités différentes, en allant travailler sur les timbres de ces instruments, mais aussi en intégrant des influences africaines par exemple. Donc elle a créé ce qu'on appelle, elle a fait partie en tout cas de ce qu'on appelle le quatrième monde, c'est-à-dire un monde folklorique imaginaire. Donc ça a été aussi défini par Brian Eno par exemple, autre musicien assez connu, ou Don Cherry dans le secteur du jazz par exemple. Et donc elle est très rare. Et elle viendra nous voir entre une date à Londres, au Barbican Center, et une autre date à Bruxelles sur un centre culturel très connu. Donc c'est une chance de la voir.
Vous proposez aussi Stockhausen le dimanche 25 janvier ? Vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le public peut aborder cet artiste ?
Oui, c'est très étonnant. En fait, déjà, c'est un travail qu'on a fait avec Éléonore Lelamer, qui est chef de chœur à l'opéra et qui dirige aussi un ensemble qui s'appelle Oxymore. On avait déjà collaboré avec eux il y a 3 années et on s'était très très bien trouvé humainement parlant. Quand on a proposé cette pièce-là, tout de suite, il y a une excitation qui s'est créée parce que c'est 52 pièces qui font à peu près 1 minute à 1 minute 30, qui ont une interprétation assez... On peut les interpréter de manière très différente. Donc là, la pièce jouera à peu près 60 minutes. Et puis, Léonore voulait présenter cette pièce-là de manière un peu différente de ce qu'on peut entendre, nous, dans le secteur de musique contemporaine. Donc, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'on va garder un peu le mystère, mais il y aura une scénographie un peu spécifique, des costumes aussi également. On essaie de proposer une immersion pour le public, quelque chose qui va être assez différent d'un concert habituel.
Et le samedi 31 janvier, on retrouve Alabaster de Plume, figure singulière du jazz et de l'improvisation. Nobody came to kiss you goodbye. Goodbye, the same if it's yours or mine. A time in vain is a slim line. À quoi peut s'attendre le public lors de ce concert ?
Ah, je l'adore vraiment, c'est un personnage. Il est très solaire, il vient de Manchester. C'est quelqu'un qui est vraiment né dans l'improvisation musicale en permanence. Il organise tous les week-ends, je crois, à Manchester, des grands bœufs de 6 heures qu'il enregistre avec des gens de passage, des musiciens qui sont additionnels. Là, je suis sûr qu'il va demander à des gens du public ou à des gens qui aura de l'improvisation en ouverture de venir le rejoindre. Il est un peu insaisissable. Par exemple, pour vous dire un petit truc un peu insider, j'ai reçu la fiche technique qu'il y a 2 jours. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux jours qu'il a fixé son équipe pour venir jouer au concert. Alors lui, il est dans un format de jazz improvisé, assez. Il a un instrument de problème de prédilection qui est le saxophone, avec une sonorité très particulière. Il a un vibrato qui fait presque éthiopique. Et puis après, c'est un personnage solaire, très engagé politiquement aussi. Voilà, faut vraiment voir parce que c'est un personnage poétique aussi. Il a un truc très très riche sur scène et moi, je l'adore vraiment.
Et j'ai un dernier morceau en stock qui va nous faire voyager, notamment en Écosse, le jeudi 29 janvier avec Bridge, Chamble et Megabass. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux artistes?
Oui, alors on va commencer par Megabass. Megabass, c'est un artiste qui est plutôt issu de la scène DIY, qui joue sur ce qu'on appelle une double basse. En fait, c'est une double basse, une guitare à deux manches qu'il a retrafiquée avec plusieurs cordes différemment accordées. Il propose un univers assez improvisé, mais quand même avec une base écrite sur un album qui s'appelle Flamenca, qui est sorti il y a deux ans. J'ai eu l'occasion de le voir à Paris, parce que je l'organisais sur un autre événement, et ça a été vraiment un très très grand moment d'immersion, un peu comme les Sonic Youth des débuts. Un peu voilà, dans cette énergie-là. Pour Bridge Chamble, c'est autre chose. C'est une Écossaise, une jeune Écossaise qui joue la cornemuse d'Écosse, qui est très différente de celle qu'on connaît nous en Bretagne, puisqu'elle joue plus sur les aigus. Et cette cornemuse-là, elle l'a pimpée. C'est-à-dire qu'elle a rajouté dessus des effets sonores, des pédaliers. Et puis elle a aussi un peu modifié son instrument pour qu'il sonne exactement comme elle le souhaite. Et elle s'inscrit vraiment dans une tradition. Alors elle vient de l'île de Skye. Certaines personnes connaissent ici l'île de Skye parce qu'il y a des très bons whisky. Et notamment, elle a toute une tradition derrière qu'elle refait vivre. Donc, c'est ce qu'on appelle de la musique néo-traditionnelle. Elle réveille aujourd'hui des vieilles mélodies, de vieux contes, et elle les réaborde avec vraiment une modernité évidente. Et puis c'est un dispositif aussi avec un peu de vidéo. C'est très très immersif, c'est vraiment très poétique.
Il y a aussi plusieurs propositions qui croisent musique et patrimoine du répertoire, comme Vivaldi Recomposed de Max Richter. Est-ce que c'est une manière de créer des ponts pour inviter le public à entrer plus facilement dans la musique contemporaine?
Oui, tout à fait, c'est ça. À un moment donné, on a quand même un répertoire qui est hyper large dans la musique contemporaine. Et beaucoup de gens en écoutent, en fait, de plus en plus. On en a dans la pop, on en a dans plein de secteurs. On disait le cinéma tout à l'heure. Les 4 saisons Vivaldi, c'est un grand classique de la musique classique. Il a été revisité par ce compositeur allemand qui s'appelle Max Richter, qui a utilisé des techniques de musique électronique, en fait, du click and cut. Il a refait des sessions d'enregistrement de certaines parties. Et là, on propose cette version de Vivaldi, de ces 4 saisons, avec un duo, piano-violon.
Et le dialogue avec les arts visuels est très présent cette année. On pense notamment au concert à la Criée, au musée des Beaux-Arts ou à la galerie Oniris. Qu'est-ce que ces lieux apportent à l'écoute et à l'expérience musicale?
Eh bien, c'est déjà l'ADN originel du festival que de présenter des concerts dans des lieux d'exposition. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a des sports de dialogue entre les œuvres visuelles et les œuvres sonores qu'on essaie d'instaurer. Et puis, ce qu'on aime bien aussi dans ces endroits-là, c'est qu'on casse un peu la logique de frontalité d'un live. C'est-à-dire qu'on peut venir voir un concert et partir au bout de 5 minutes si ça ne nous plaît pas. On a le droit de ça. On peut aussi se dire, on va aller voir l'exposition et garder la musique en fond sonore. Ça va être le cas au Musée des Beaux-Arts, par exemple. On sait qu'on aura peut-être beaucoup de monde, on ne pourra pas forcément rentrer tous en même temps dans l'espace. Mais du coup, ça permettra d'aller visiter les expositions en cours.
Il nous reste un peu de temps, donc je vous propose de présenter peut-être des artistes qu'on n'a pas abordés, vos coups de cœur.
Après, dans une programmation, tout le monde est un peu coup de cœur. On peut peut-être parler de la clôture avec le festival Travelling. C'est un moment un peu particulier, ce sera autour de David Lynch. C'est tout un travail de composition avec Olivier Mélano qui a proposé ce projet-là, à la fois à Autre Mesure et à la fois au festival Travelling. L'année dernière, on avait eu l'occasion de présenter, un peu comme cette année avec There Will Be Blood, une séance de cinéma autour de David Lynch et notamment du préquel de Twin Peaks. Et puis, il s'avère qu'il est décédé le soir de la projection. Et ça nous a marqué vraiment très fort. Et quand Olivier est revenu avec cette idée de faire quelque chose autour de David Lynch, on a tout de suite applaudi les deux mains, quoi. Et alors là, il va visiter tout le répertoire des films de David Lynch, c'est-à-dire de Eraserhead, vraiment tout début, avec des musiques très expérimentales, jusqu'au dernier épisode de Twin Peaks qu'il a pu tourner. Donc il y aura aussi des répertoires de musique actuelle, hein. On aura du Chris Isaak, du Nine Inch Nails à l'intérieur, mais aussi de la musique classique contemporaine.
Et justement, comment vous avez choisi tous ces artistes?
Alors, Melaine et moi, on est quand même de la partie du milieu professionnel de la musique. Melaine est musicien, il est professeur au conservatoire. En tant que musicien, il rencontre beaucoup d'artistes sur les festivals. Moi, je suis par ailleurs agent, en fait, dans une agence qui s'appelle Vedette. Et je m'occupe de faire tourner beaucoup d'artistes depuis des années de ça. Et puis, je suis programmateur aussi dans des salles depuis très longtemps. Et donc, du coup, on a une espèce de veille artistique qui se met en place à l'année. Toute l'année, on reçoit des projets, mais on en écoute aussi énormément.
Est-ce que vous avez des envies, des directions que vous avez envie d'explorer dans les prochaines éditions?
Alors, on est toujours un peu en ébullition, je veux dire, sur ce qu'on veut faire. Il y a des projets au long cours qu'on mène, par exemple, je parlais de Laura Pérudin, qu'on va accueillir cette année en workshop. En fait, c'est une étape de travail et on l'aura l'année prochaine sur une diffusion de concert. Donc là, elle va nous proposer un travail autour de sa harpe, c'est une harpe augmentée. Et on est encore dans une phase d'expérimentation, donc on veut présenter cette étape-là pour pouvoir ensuite, l'année prochaine, présenter son projet fini. Sur les événements, on aimerait bien avoir des grands ensembles. Un jour, on aimerait bien travailler sur des grands ensembles de musique contemporaine comme on en connaît voilà, dans les grands lieux.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Sébastien pour votre présence.
Merci à vous.
Autre mesure, c'est donc du 15 au janvier au 17 février à Rennes, avec une quinzaine de rendez-vous dans plusieurs lieux de la métropole, et dont une grande partie est en accès libre. Et pour l'autre partie, il faut penser à réserver. Toute la programmation est à retrouver sur le site autremesure.com.
Oui, et puis j'en profite pour vous rappeler que Sylla propose de gagner une place pour le spectacle Stimmung, donc, dont on a largement parlé dans cette interview, donc du compositeur allemand Stockhausen par l'ensemble Oxymore. C'est à la chapelle du Conservatoire de Rennes et c'est le dimanche 25 janvier à 15h. Et pour découvrir ça, il suffit de rentrer le bon mot de passe sur notre site. Je vous laisse dire le mot de passe, celles et ceux qui le savent.
Si bémol majeur.
Oui, voilà, parce qu'il y a une histoire de si bémol majeur avec Stimmung.
Tout à fait.
Si j'ai bien compris. Voilà, donc c'est le mot de passe qu'on a choisi. Donc rendez-vous sur c-lab.fr pour rentrer le bon mot de passe et tenter de gagner une place. Merci à vous.
Merci.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Eh bien, il ne nous reste plus qu'à checker le répondeur ce soir. On appuie ? Bip, bip.
Le téléphone.
Allô,
Sylab, la radio sauvage.
Pas de message ce soir, sniff sniff. Oh. Laissez-nous un message vocal si vous allez voir des festivals, des concerts au festival Autre Mesure. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez autre chose sur le cœur, c'est fait pour ça. 02 30 96 25 35, voilà, c'est le numéro pour laisser un message. On le diffuse à la fin de l'émission à la place de cette petite annonce. Merci à vous et à demain dans 6h avant minuit. Merci Maud pour la technique.
Radio 84 radio.4 Radio Campus Rennes 88.4.
J-25 avant les 30 ans de la radio Sylam.
Radio Campus Rennes 88.4.
C'est festif.
La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Sylab,
la radio sauvage.